Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal de la Radio des Nations Unies. À New York, un événement spécial pour marquer le 70e anniversaire de la libération du camp nazi de Auschwitz-Birkenau. Dominique Ongwen de la LRA a été transféré à la CPI. En Centrafrique, lancement officiel de consultations populaires avant le forum de Bangui. Herbert Coenders des Pays-Bas parle de l'exposition sur le camp des réfugiés syriens d'Al-Zaatari en Jordanie. Au micro, Jean-Pierre Amissi Ramazani. À l'occasion du 70e anniversaire de la libération du camp de concentration d'Auschwitz-Birkenau, les Nations Unies ont organisé ce matin au siège à New York un débat sur le thème « Pourquoi avons-nous échoué à prévenir les génocides et comment changer cela ?» Un débat mené à l'initiative de la mission permanente de la Pologne et auquel devaient participer une douzaine d'orateurs. Un débat lancé par Jan Eliasson, le vice-secrétaire général de l'ONU, qui a estimé qu'au vu des récentes attaques brutales perpétrées au Nigeria et en France au nom de la religion, il importe de placer l'éducation et l'aspiration à vivre dans la paix, la sécurité, la dignité au centre du message de la communauté internationale.
Trop de fois, nous avons échoué à protéger les populations vulnérables. Aussi, ces jours de commémoration des victimes de l'Holocauste offrent une occasion importante de voir comment nous pouvons collectivement, avec une plus grande détermination, transformer les leçons apprises en actes concrets de prévention. C'est pourquoi je tiens à remercier particulièrement la mission permanente et le gouvernement polonais d'avoir pris cette initiative aujourd'hui en relation avec l'importante journée internationale célébrée la semaine prochaine. Le secrétaire général et moi-même, nous comptons sur votre engagement à tenir la promesse du « plus jamais ça ». En ce moment critique, nous devons défendre sans faute la dignité humaine et les principes et objectifs de l'Organisation des Nations Unies inscrits si puissamment dans la Charte des Nations Unies il y a 70 ans. Nous avons du travail à faire.
Le secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon et le Conseil de sécurité se sont félicités du transfèrement mardi du commandant de la LRA, l'armée de résistance du Seigneur, Dominique Ongwen, à la Cour pénale internationale à La Haye aux Pays-Bas. Dominique Ongwen, à l'encontre duquel la CPI a délivré un mandat d'arrêt pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre, s'était rendu le 6 janvier en République centrafricaine. Écoutez la réaction de Fatou Bensouda, la procureure de la CPI, sur les atrocités commises par la LRA.
Depuis plus d'un quart de siècle, la LRA aurait tué des dizaines de milliers de personnes et serait à l'origine du déplacement de millions d'autres. Ils ont terrorisé des civils, enlevé des enfants et les ont contraints à tuer et réduits à l'esclavage sexuel. Ils sont démembrés et atrocement défigurés, hommes, femmes et enfants. Mon enquête fait apparaître que Dominique Ongwen était un commandant de haut rang au sein de la LRA et qu'il figure parmi les personnes portant la plus lourde part de responsabilité dans des crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale.
Afrique toujours, la situation au Burundi était au menu ce matin d'une réunion du Conseil de sécurité. Les 15 ont notamment entendu Paul Seger, le représentant permanent de la Suisse, en sa qualité de président de la formation Burundi de la Commission de consolidation de la paix. Ce dernier a rappelé qu'il s'est rendu à Bujumbura du 8 au 12 décembre pour participer à la cérémonie marquant la fermeture du BNUB, le Bureau des Nations Unies au Burundi. Outre la présence de l'ONU sur le terrain et l'avenir de la Commission de consolidation de la paix, Paul Seger a insisté sur la situation sécuritaire au regard des violences récemment perpétrées, notamment dans les provinces de Chibitoke et de Ruigi.
Nous sommes là pour attendre le lancement officiel des experts sur le terrain. La première partie pour la Kémo, la Lobaye et l'Ombilapoko. Ça dit clairement que le processus est enclenché. Mon sentiment, c'est que les choses avancent normalement et que nous allons respecter les engagements pris devant la communauté internationale, également devant la nation, de pouvoir mener à bien la transition et impliquer tous les Centrafricains dans le processus de réconciliation.
Et puis en République centrafricaine, le Premier ministre Mahamat Kamoun a présidé mercredi 21 janvier à Bangui au lancement officiel de consultations populaires qui précède le forum de Bangui. Les Centrafricains sont invités à se rendre dans les préfectures et les sous-préfectures pour soumettre leurs doléances et leurs idées afin de sortir de la crise. Durant 3 semaines, 25 équipes de travail vont interroger toutes les couches sociales centrafricaines sur toute l'étendue du territoire national. Pour en savoir plus, Alpha Diallo a tendu son micro à Jeannette Détoua, ministre de la Réconciliation et du Dialogue politique.
Ces incidents sont la preuve que malgré le retrait du BNUP, nous, et dans le « nous », j'y inclus le Conseil de sécurité, devons rester vigilants. La période électorale battra bientôt son plein, avec à la clé des tensions qu'il faudrait gérer avec prudence. Ce n'est pas le moment de baisser la garde. Il va sans dire que la violence, quels qu'en soient les auteurs, n'a pas sa place au Burundi. Dans l'actuel contexte préélectoral, seule option valable pour tous les acteurs de la société burundaise est le dialogue dans l'esprit d'Arusha. On ne le dira jamais assez. Seul un dialogue politique réellement ouvert, dans un espace politique décloisonné, assurant la protection de toutes les libertés publiques et les droits de chacun, permettront de réunir des conditions d'élection véritablement libres, équitables, pacifiques et crédibles.
Le Forum économique mondial de Davos, qui se tient du 21 au 24 janvier, réunit comme chaque année des dirigeants d'entreprises, des responsables politiques du monde entier, ainsi que des intellectuels et des journalistes, afin de débattre des problèmes les plus urgents de la planète. Les Nations Unies y seront encore représentées au plus haut niveau cette année. Le point avec Christina Silvero.
Pour l'ONU, Davos est l'occasion d'attirer l'attention des leaders du monde sur les priorités de l'organisation. Le Programme alimentaire mondial aura sa propre tente sur le site. Le PAM compte réaffirmer qu'investir pour la faim zéro est fondamental pour l'économie. Pour chaque dollar investi dans la nutrition, jusqu'à 166 dollars de bénéfices peuvent être réalisés. On atteint rarement un tel retour sur investissement, notamment quand il s'agit de sauver des vies et de construire un futur pérenne pour notre monde. L'UNICEF exhorte pour sa part les leaders de tous les secteurs réunis à Davos à faire des enfants une priorité dans l'agenda de développement post-2015 afin de consolider les acquis des 15 dernières années. Le fonds qui souligne sept priorités, y compris celle de mettre les enfants au centre de la lutte contre la pauvreté. Enfin, l'envoyé spécial de l'ONU pour la lutte contre Ebola, David Nabarro, devrait souligner que le soutien et le leadership du secteur privé est essentiel à la lutte contre l'épidémie qui manque de financement, tout en rappelant que le secteur privé a été le premier à s'activer sur le terrain contre Ebola.
Vous écoutez un programme de la Radio des Nations Unies.
Nous avons l'obligation d'aider les réfugiés syriens, a déclaré mardi soir le ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas, Bert Koenders, lors du vernissage de l'exposition photographique sur le camp des réfugiés d'Al-Za'atari en Jordanie. Cette exposition est co-organisée par les missions permanentes de la Jordanie et des Pays-Bas et par le HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. L'exposition présente quelques-unes des images que quatre photographes de l'agence Nour ont prises lors de leur visite d'une semaine au camp de Za'atari en Jordanie en 2014. Bert Koenders explique l'importance de cette exposition au micro de Christina Silvero.
C'est très important parce que le monde ne peut pas oublier les réfugiés de Syrie et aussi d'Irak. Moi, j'ai visité les camps à Jordanie et j'étais tellement impressionné par pas seulement l'hospitalité des Jordaniens, mais aussi par les traumas, les pathologies de beaucoup de réfugiés. Ils sont dans une situation extrêmement difficile et ça veut dire qu'il faut montrer que même quand nous parlons aujourd'hui, il y a un grand sous-financement de l'aide humanitaire pour les réfugiés, pas seulement en Jordanie, mais aussi au Liban, en Turquie. Alors nous avons l'obligation d'aider ces gens. Et deuxième, je crois que c'est même plus important, c'est si on montre les images de ces réfugiés, on comprend qu'il faut faire quelque chose avec la Syrie. Qu'on a besoin pas seulement de l'instrument militaire qui est important, mais aussi la diplomatie.
Justement, vous êtes ministre des Affaires étrangères oui. À présent. Comment voyez-vous une issue? Qu'est-ce que l'on peut faire?
Bon, je crois qu'il faut utiliser tous les moyens maintenant pour trouver une dialogue politique. Il y a deux possibilités là. Je crois qu'ils doivent être combinés. Un, c'est suivre le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, M. Mistura, pour avoir ce qu'il appelle les freeze locaux. Alors ça, c'est le feu. Oui, je crois qu'on n'a pas d'alternative. Parce que, par exemple, à Alep, il n'y a pas d'alternative de commencer avec quelque chose comme ça, mais ça doit être combiné avec l'aide humanitaire, avec des observateurs et, au même moment, un dialogue entre les différentes communautés syriennes. Je crois qu'il y a des petites ouvertures maintenant. Alors, il faut avoir une approche, ce qu'on appelle en bon français, top-down et bottom-up. Il faut les combiner.
Vous pensez qu'avec la montée des courants plus extrémistes que l'on voit, cela crée une occasion pour un rapprochement, justement?
Bon, je crois que chaque jour, ça devient difficile. Parce que pour beaucoup, il n'y a que le choix entre Daesh et le régime d'Assad. Et ça, c'est un choix de diable. Alors il faut vraiment aussi aider l'opposition modérée qui est encore là, mais il faut aussi parler avec les différentes communautés qui sont là, des différents côtés. Je crois que ce n'est pas impossible, mais chaque jour ça devient plus difficile.
Vous avez parlé d'Alep en tant que ville icône, pourquoi ?
Bon, je crois que tout le monde doit parler d'Alep, dans tout le monde. Parce que si Alep tombe, on a un autre massacre et un autre groupe de réfugiés ont beaucoup de chiffres et de nombres qui doivent trouver leur futur. Ça veut dire qu'il y a une grande ville syrienne de nouveau qui nous échappe. Et je crois que c'est pour cela que l'opinion publique, qui est en train un peu d'oublier le Syrie, doit connaître cette ville, doit contacter les citoyens qui sont encore là, les aider, mais aussi éviter, faire tout ce qu'ils peuvent pour éviter le massacre. Comme on avait il y a 20 années Sarajevo, comme une ville icône, il faut le faire le même avec Alep.
Vous êtes quand même un homme du terrain. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué lors de votre visite à Zaatari ?
Bon, je dois dire vraiment l'hospitalité du peuple jordanien, parce que ce n'est pas seulement les gens qui sont dans le camp, mais aussi dans toutes les familles. Alors c'est déjà une population qui n'est pas très riche, qui ne trouve pas facilement d'emploi. Et néanmoins, ils ont accepté les Syriens dans leur communauté. C'est impressionnant. Et il faut, je crois aussi, dans le contexte d'aide humanitaire, de trouver des manières de soutenir ces familles avec des maisons de service, de l'école, des services médicaux, etc.
Une publication récente de la FAO indique qu'à l'heure où le changement climatique progresse plus rapidement que prévu, les ressources génétiques ont plus que jamais un rôle essentiel à jouer pour nourrir le monde. Et beaucoup reste à faire pour étudier, préserver et utiliser la biodiversité qui sous-tend la production alimentaire mondiale. Explication de Linda Colette, secrétaire de la Commission des ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture, propos recueillis par Muriel Sarr de la FAO.
Le principal avantage de la diversité génétique, c'est l'adaptation aux changements permettant la survie des espèces. Avec le changement climatique, il y aura des stress qui n'étaient pas là et qui vont être exacerbés. Ça peut être le fait qu'on va devoir produire dans des sols plus alcalins, dans des conditions où la température va être plus élevée. Donc, on doit avoir le matériel génétique disponible pour pouvoir arriver à des cultures qui sont adaptées aux changements climatiques.
Où en est-on en ce qui concerne l'élaboration de politiques et de programmes de conservation adéquats pour préserver les ressources alimentaires et agricoles?
La Commission sur les ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture est un forum de la FAO où les pays membres se réunissent et discutent, négocient et partagent de l'information. Si on prend les plantes, pour arriver à négocier un plan d'action mondial, les pays se basent sur l'état du monde de cette ressource. Alors, l'état du monde est développé à partir des rapports nationaux, d'études scientifiques, etc. Et là, on produit un rapport. Ce rapport-là est analysé, il y a des grandes lignes directrices, il y a des avenues de recherche, plein d'enjeux qui sont présents. Alors, on transforme ces enjeux-là en plans d'action mondial. Ces plans d'action-là sont négociés. Dans le cas des plantes, ils sont négociés sur différents thèmes. Alors, ce sont des grands groupes d'enjeux. Alors, les pays négocient ces plans d'action et là, par la suite, au niveau national, ils vont les mettre en œuvre. Mais la Commission ne s'arrête pas là non plus, parce que la Commission doit faire le suivi de la mise en œuvre de ces plans d'action au niveau national. Donc, les pays rapportent à la Commission.
Et que doivent faire les gouvernements?
Bon, au niveau national, ce qui se passe souvent, c'est qu'on voit qu'ils vont, d'une part, formuler des politiques. En formulant ces politiques-là, qui créent un espace pour soit des programmes de sélection, des programmes de recherche, de l'éducation, on va s'assurer qu'il y a des institutions, des programmes qui permettent justement de faire face au changement climatique.
L'Éthiopie est présentée comme un pays qui privilégie des systèmes avancés pour faire face à ce problème. Pourriez-vous nous donner quelques exemples?
Dans le cas de l'Éthiopie, c'est qu'il y a souvent le matériel génétique qui est disponible dans les banques de gènes au niveau national ou même certains paysans se constituent des banques de gènes collectives. Et ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a de la conservation, donc les paysans, les fermiers, les agriculteurs, en plantant et en utilisant ce matériel, bon, ils font ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, la conservation in situ. Alors, ce qui se passe, c'est qu'en Éthiopie, il y a une rencontre des deux qui est faite d'une façon systématique et institutionnalisée. C'est d'utiliser le matériel qui sont dans les banques, de le remettre à la disposition des fermiers pour qu'ils puissent l'utiliser sur le terrain. Et là, ça fait en sorte qu'il y a du matériel qui était plus traditionnel, des variétés locales. Et ceci s'est fait principalement pour le teff, l'orge et le sorgho.
C'est ainsi que se referme ce journal de la Radio des Nations Unies. Merci de votre fidélité. À demain, même heure, même fréquence.